Je vais commencer cette méditation en vous plantant une écharpe dans la chair. Par une simple question, mais que nous avons tous entendu en tant que chrétiens. Si Dieu existe, comment se fait-il qu'il y ait tant d'injustices, tant de violences, tant de guerres? Pourquoi, si le sauveur du monde est venu à Noël, pourquoi des innocents meurent-ils chaque jour encore? Et pourquoi aussi les injustes prospèrent-ils? Le prophète Ésaïe, souvenez-vous, en son magnifique chapitre 11, avait prophétisé, il avait eu cette vision du loup et de l'agneau qui dorment ensemble, de l'enfant qui joue sur le nid de la vipère. Le Messie est venu. Les violences, les injustices, les précarités, les colères en tout genre demeurent. Comme le chantait ce vieux bluesman, Bill Durham, le vieux loup de la fontaine se fait toujours l'agneau. Quand on fait connaître notre foi, il arrive que les gens sourient en coin, comme si nous étions un peu simples d'esprit, un peu gentils. D'ailleurs, si les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme Messie, c'est parce qu'ils croient très sincèrement que le Messie, le vrai, fera immédiatement cesser les guerres, les violences, mettra fin aux injustices. Il réalisera la prophétie d'Ésaïe 11. Et nous, pauvres chrétiens du 21e siècle, qui continuons à croire, malgré tout, que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, nous, chrétiens, que répondons-nous à cette contestation de la naissance du Sauveur en la personne de Jésus-Christ? Je vous ai dit que les chardes allaient faire mal, hein? Certains chrétiens pensent résoudre le problème en disant qu'en fait, l'histoire du loup et de l'agneau, filant le parfait amour, eh bien, c'est seulement pour la toute fin des temps. C'est pour le jugement dernier. Et moi, sœurs et frères, j'ai un gros problème avec cette théorie, avec cette interprétation. Parce qu'à ce compte-là, pourquoi on peut se demander à quoi a servi Noël? Pourquoi Jésus est-il venu si c'est pour ne rien changer à notre monde? Dieu aurait pu se contenter de l'envoyer seulement à la toute fin des temps pour régler l'ardoise du péché, du mal, de la violence d'un coup. Voilà. Nous sommes au fond de l'ornière théologique, là, hein, dans le dur. Pour en sortir, parce que je ne vais pas vous laisser partir comme ça, hein, pour en sortir, il nous faut chercher de l'aide dans le récit de l'annonce des anges aux bergers. Parce que finalement, il se passe quelque chose chez eux qui peut se passer chez nous. L'attitude de ces bergers va nous interpeller en nous retournant, premièrement, une autre question. Leur question, c'est: qu'attendez-vous de Dieu? La question n'est pas tant que le Messie ne répond pas aux attentes, mais vous, qu'attendez-vous de lui? Attendons-nous un Dieu qui va empêcher qu'une guerre se produise, qu'une épidémie emporte des centaines et des milliers, qu'un attentat éteigne subitement la vie d'innocents que le cancer ou les accidents de la route enlèvent de la vie à nos bien-aimés. Ça voudrait dire que nous croyons en un Dieu qui assure la prospérité à ses adeptes, à ceux qui le prient ou à ceux qui méritent de tels désagréments. Or, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Nous connaissons tous un modèle de foi qui est parti, emporté par je ne sais quelle cause, et nous avons tous ressenti un sentiment d'injustice. N'est-il pas vrai? Les théologies de la prospérité qui se développent aujourd'hui sur les continents africains et sud-américains, mais aussi dans notre vieille Europe, sont des escroqueries théologiques et font beaucoup de mal à l'Église parce qu'elles sont à fixation rapide, un peu comme certains ciments, vous voyez. Elles semblent évidentes. Mais la seule réponse à notre énorme problème théologique et existentiel, la seule réponse est la suivante. Le signe de l'action de Dieu dans le monde, c'est un bébé dans une étable. Le signe du bébé. Ça va permettre au berger de changer de théologie. Encore faut-il qu'ils comprennent ce signe. Quand ils ont entendu l'ange leur dire « Aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur vous est né, qui est le Messie, le Seigneur », qu'ont-ils entendu? Qu'ont-ils imaginé spontanément? Eh bien, ils se sont fait les représentations que leur religion leur donnait. Chaque religion développe sa théologie, donne des clés aux fidèles pour comprendre. Le nouveau Messie serait forcément, puisqu'il naît dans cette ville-là, un David, puissance 10, un roi surpuissant, qui viendrait établir un règne de paix sur la terre, concrètement en finir avec l'occupation romaine, avec la pauvreté, avec l'injustice. Les bergers sont très sensibles à ces causes-là, ils constituent la classe sociale la plus défavorisée de la société d'alors. Et leur attente de justice était vive. Le signe du bébé nous invite à notre tour à changer de théologie. Souvent, plus ou moins consciemment, nous attendons un Dieu super puissant, capable de résoudre les grands problèmes de notre monde et les petits problèmes de notre vie. Alors que Dieu, à Noël, nous avertit, je ne suis pas là où vous m'attendez, où m'attendent les hommes. Je me tiens ailleurs. Pas dans des temples faits par la main des hommes, aux côtés de toutes les idoles surpuissantes sur lesquelles on projette nos désirs de salut, de mieux-être, de réussite, de prospérité, non ? Je me tiens du côté de la tendresse, du côté de l'amour, de la gratuité, de la fragilité. Le signe du bébé nous invite, sœurs et frères, à changer de paradigme. La religion chrétienne est distincte de toutes les religions du monde en ceci qu'elle accepte, c'est une folie, de miser sa foi, son attente, son espérance sur la banalité, la fragilité d'un événement aussi commun que la naissance d'un bébé dans un coin perdu de Palestine. Un bébé pour changer le monde, c'est cela, et seulement cela, la foi de l'Église. C'est l'image de la faiblesse conjuguée à celle de la fécondité. venue d'un enfant dans un foyer, c'est un événement qui est porteur d'un message. Ce message enseigne aux parents que cette vie qui est là est à la fois fragile et féconde. Elle n'est pas centrée sur elle-même, mais qu'elle s'ouvre sans cesse à une expérience d'altérité. Les parents font la connaissance de leur bébé. C'est un peu un étranger quand même. Hein. Et le bébé va faire connaissance avec ses parents, qui sont ces grands-là, qui sont tout le temps là, à côté de moi. C'est une expérience d'altérité. On est très loin, là, d'une vision très fusionnelle de l'éducation par enfant, de la relation par enfant. Quand on devient parent, comme Dieu avec Jésus, il faut renoncer à un certain nombre de choses, à commencer par la toute-puissance, car nos enfants nous échappent en même temps qu'ils nous donnent beaucoup d'amour et qu'ils nous sont donnés à aimer. Il y a un vieux proverbe de parents avisés qui dit « Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. » Tant que l'on cultivera cette idée, cette idole d'un Dieu tout-puissant, distributeur de réponses, distributeur automatique, vous savez, de réponses aux problèmes du monde, à nos problèmes, nous serons incapables d'accueillir le mystère de Noël. La bonne nouvelle qui est apportée par les anges aux bergers, c'est que Dieu n'est pas le Père Noël, chargé dans sa hôte de réponses toutes faites, rapides, évidentes, définitives, et qu'il va jeter comme ça du haut du ciel à tous les gens qui en demandent des réponses, qui en demandent beaucoup. Il est temps qu'on nous dise la vérité. Nous sommes grands maintenant. Le Dieu Père Noël n'existe pas. C'est dur, hein, comme vous faites. Mais... Et pour accueillir le vrai message de Noël, pour accueillir la bonne nouvelle de ce bébé comme ultime réponse de Dieu à l'attente de ce monde en souffrance, il faut accepter que se produise en nous un grand bouleversement. Il faut laisser l'Esprit Saint reprogrammer entièrement notre logiciel. Il nous appelle, Noël nous appelle à une conversion. C'est au-dedans de nous que peut se réaliser le miracle du changement. Et par ce changement, nous ne sommes plus les spectateurs passifs, attentistes de l'action de Dieu dans le monde, mais nous devenons des acteurs humbles et engagé d'une transformation intérieure, premièrement, essentiellement, la nôtre. C'est cela. À Noël, Dieu nous offre un enfant. Ça n'empêchera pas les attentats, les effondrements économiques, écologiques, les injustices sur fond de corruption dans le monde entier. Mais à l'intérieur de nous, l'accueil de l'enfant de Bethléem peut tout changer. À ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, le bébé de la crèche est donné, ils deviennent parents, eux aussi. Comme Marie, Joseph, comme les bergers, nous nous ouvrons à ce petit corps qui gigote dans sa mangeoire, et comme les bergers, nous reconnaissons qu'il y a là le Sauveur du monde. Le Sauveur de nos vies. Aucune richesse matérielle n'est promise. La maladie ne nous sera pas épargnée, pas plus qu'un mauvais coup du sort. Mais un enfant nous est donné. Cet enfant message oriente nos existences au-delà de nous-mêmes, vers la vie, vers la rencontre, vers l'espérance. par ce petit emmailloté, nos vies basculent dans une autre histoire, une sorte d'histoire dans l'histoire, vous voyez ? Celle d'une vie intérieure profondément reconnaissante pour cette présence aimante qui fait sens, qui réconforte. Dieu avec nous. Noël, c'est une expérience profondément spirituelle. Elle nous apprend que le don de Dieu, ce n'est pas de réclamer comme des enfants gâtés, ceci et cela, mais d'apprendre à être ébranlés sur nos fondements pour nous ouvrir à une autre destinée, celle du don, celle de l'amour gratuit, celle du pardon et de la réconciliation. À quoi sert d'attendre ou de prier que Dieu trouve du haut de son ciel des solutions en Syrie, au Yémen, au Mali, à la SNCF, si je ne suis pas capable d'accueillir pour moi la puissance de transformation intérieure qui est donnée dans l'enfant Jésus? À quoi bon demander tout cela si je ne suis pas moi-même réconcilié? Mais il faut tout de suite ajouter autre chose. Nous ne confessons pas un Dieu, un sauveur, à l'échelle de notre petit moi intérieur. Un sauveur subjectif, vous voyez, qui se diluerait là, à l'intérieur de moi, dans une espèce de mystique impénétrable, impossible à expliquer. Avec vous, je crois que le Messie donné à Noël change réellement le monde. Le bébé de Bethléem possède une puissance réelle de transformation du monde, de désarmement de la violence. D'une part, en Jésus, le Tout-Puissant, Seigneur des armées, devient le Seigneur des armées. Vous avez entendu, vous n'avez pas compris, alors je le dis comme ça, voilà. Je l'écris comme ça, vous pouvez entendre ce subtil jeu de mots, n'est-ce pas ? Il y a des cloches. C'est Noël. Dieu ne se donne pas d'autre puissance, et c'est ça le plus difficile à accepter, que celle du renoncement à la puissance. Le Seigneur des armées. Et d'autre part, en Jésus, Dieu nous dote d'une arme ultra puissante pour anéantir la violence elle-même. Faut-il encore s'en saisir et accepter de s'en servir? Il va opposer à la domination des puissants le signe d'une fragilité désarmante, le sourire d'un enfant, la puissance d'une parole. Jésus ne va pas rester ce bébé qu'on sort une fois par an, qu'on installe dans sa crèche. Dans certaines traditions, on dirait que c'est un bébé seulement. Il est resté tout petit tout le temps. Et une fois par an, on le pose dans son petit berceau, là, et on le range pour un an dans les placards. Non, il a grandi, heureusement, il est devenu fort. Les bébés, ça va un moment. Hein. Il faut que ça grandisse. Jésus va devenir un homme. Un bébé ne nous aurait jamais enseigné les béatitudes. Un bébé ne nous aurait jamais appris le Notre Père. Il n'aurait jamais appelé Lazare hors de son tombeau. Il n'aurait jamais guéri les malades. Un bébé. Le salut passe donc par la croissance d'un bébé vers son état adulte. C'est lent, ça prend du temps, c'est presque imperceptible. Hein, vous mettez la photo de votre petit, vous prenez des photos tous les jours pendant 6 mois de votre petit, il n'y a pas de changement. Ben, si vous mettez à côté les photos de 6 mois, 6 ans, 16 ans, 26 ans ? Ah ouais ! C'est imperceptible, mais ça avance. C'est ce que nous enseignent des paraboles comme la graine de moutarde ou comme le grain de blé. Le temps de Dieu est imperceptible, mais il est là, il se réalise dans la durée, lentement, sûrement. À Noël, dans ce bébé de Noël, eh bien, il y a déjà la promesse du monde à venir, du royaume de Dieu. Mais pas encore le royaume lui-même. Il y a dans ce bébé toutes les potentialités, toute l'ADN du royaume de Dieu. Mais il va devoir maintenant se déployer, cette potentialité, dans nos vies et dans le monde. À son rythme, et souvent d'une manière qui nous échappe complètement. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons pas grand-chose qu'il ne se passe rien. Ce monde nouveau que nous attendons est tout entier contenu là, à portée de main, dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Ce monde nouveau est là, dans le message de la personne de Jésus. Et il se donne aujourd'hui au monde. De quelle manière, sœurs et frères ? Par vos mains, par vos cœurs, par vos regards, par vos pas, par le don de votre vie aux autres, par votre engagement, pas autrement. Vous êtes les ambassadrices, les ambassadeurs de son royaume. Et nous sommes appelés non seulement à accueillir intérieurement ce royaume de Dieu, mais à devenir semeurs de la grâce, de la bienveillance, du pardon et de cet amour que le Christ a eu pour nous. Pour que le monde change, il faut que je change, il faut que croisse en moi le royaume de Dieu. Le Messie, le Sauveur, est bien né à Noël. Mais il faut maintenant que nous l'adoptions, ce petit. Comme Joseph, Jésus n'est pas son fils. Il l'adopte par amour pour Marie, par justice personnelle, mais aussi parce qu'il a foi en la parole de l'ange. Et parce que ce bébé est fragile, et désarmant, tous ces principes sont tombés par terre. Chaque parent n'est pas seulement un géniteur, il est aussi un adoptant. Adopter, c'est dire oui à une histoire qui commence. On ne sait pas par quelle boule la prendre, on ne sait pas où elle nous mène, mais on y va. Par amour, dans la joie, dans la confiance. C'est ça Noël, pour chacun de nous. Et le récit que nous avons lu ce matin nous raconte qu'une fois la visite des bergers au bébé de Bethléem terminée, ils sont repartis en chantant la louange de Dieu. Cette scène est somptueuse. Ce ne sont plus seulement des appelés, des interpellés, des visiteurs, ils sont maintenant des envoyés, ne faisant plus qu'un avec le message de Noël, avec ce bébé de la crèche. Ils sont devenus des témoins joyeux. Ils n'auront rien d'autre à annoncer que cette vision, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui fait le salut du monde dans la beauté, dans la délicatesse, dans la fragilité. D'un don, celui d'un enfant. Il grandira. Il illuminera nos vies de grâce, d'amour, de joie et de paix. Alors, comme ces bergers, sœurs et frères, devenons à notre tour des témoins de cette bonne nouvelle, et le monde changera.